On les a vus pousser partout comme des champignons dans les pharmacies, les gares, les aéroports, les écrans vidéo verticaux qui diffusent de la pub du matin au soir. Stop aux écrans vidéo publicitaires, c'est l'appel lancé par 160 personnalités dans le journal du dimanche au début du mois. Dans ce texte, 67 députés, 70 chercheurs et 25 représentants associatifs et autres personnalités demandent que des mesures soient prises contre la prolifération de ces écrans vidéo publicitaires. C'est, je cite, une incohérence dans une société toujours plus marquée par l'urgence écologique, le gaspillage d'énergie et de ressources. Ils écrivent ceci. Pour en parler, nous sommes en ligne avec deux signataires de cette tribune. Bonjour Jean-François Julliard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de Greenpeace France. Et Mehdi Kamassi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en sciences cognitives au CNRS. Alors, je le disais en introduction, la tribune est signée par des personnes issues du monde associatif, des députés, des chercheurs. Qui a lancé le mouvement ?
C'est parti de discussions entre associations qui se sont inquiétées de cette prolifération. C'est pas nouveau de voir comme ça des écrans vidéo publicitaires dans les rues des grandes villes et dans les gares, dans le métro pour les villes qui ont un métro. Mais ça, c'est devenu de plus en plus présent et je crois que c'est cette prolifération qui est venue à l'heure où tout le monde se préoccupe de plus en plus de l'urgence écologique, de la réduction nécessaire de notre consommation d'énergie. On s'est dit que c'était plus tenable et qu'il fallait dire quelque chose, pousser un coup de gueule. C'était un peu l'objet de cette tribune pour dire qu'il y en avait assez et qu'il fallait vraiment les limiter, voire les interdire dans certaines villes, c'est certain.
Alors pourquoi ces écrans vidéo publicitaires sont-ils un problème ? Parce que vous avez deux points de vue qui sont complémentaires, justement ça qui est très intéressant ce matin. Je vais d'abord demander à Jean-François Julliard, je le rappelle, vous êtes le directeur de Greenpeace France.
Oui, ben pour nous, l'un des problèmes principaux, c'est effectivement cette consommation d'énergie excessive par rapport à ces écrans. Certains écrans, ceux qui font 2 mètres carrés, consomment autant d'électricité qu'un foyer pendant une année.
Donc c'est à ce point
important. À ce point, effectivement, parce que ce sont des écrans qui restent allumés en permanence, qui ont une luminosité extrêmement forte, parce que le but est d'être vu, bien sûr, par ceux qui les mettent en place. Donc c'est une vraie consommation d'énergie et une consommation d'énergie qui nous paraît aujourd'hui excessive et inutile dans un contexte d'urgence écologique, sans compter les composants de ces écrans. Et on sait à quel point les écrans, que ce soit les écrans qu'on a chez nous ou ces écrans publicitaires, sont consommateurs de matériaux et de ressources qui sont de plus en plus difficiles à trouver et qui posent des problèmes écologiques. Donc c'est vrai que pour nous, l'objet en lui-même, le support en lui-même pose problème. Et après, on peut discuter de ce qui est diffusé en termes de contenu, parce que là aussi, ça pousse à une surconsommation dans une période de crise écologique, crise sanitaire nouvelle, enfin on peut en discuter, mais le point de départ pour nous, c'est la consommation d'énergie.
Je reste au niveau des chiffres, Jean-François Julliard. La consommation d'énergie, c'est le chiffre transmis par JC Decaux à la mairie de Paris, 2 mètres carrés, 2 faces numériques, 12 565 kWh par an. Il y en a combien, parce que ça peut être aussi à la marge, quand on sait qu'il y a 67 millions de Français, des écrans vidéo, il y en a partout, c'est pas 10 000 de plus qui vont changer quelque chose, où je dis une énormité là.
Ça change parce qu'ils sont de plus en plus nombreux. Je n'ai plus en tête le chiffre du nombre de ces écrans. Mais encore une fois, ce qui nous a posé problème au moment de la signature de cette tribune, c'est cette augmentation soudaine, parce qu'on les a vus fleurir à Paris, par exemple, dans les rues. Jusque-là, ils n'étaient pas présents. Dans le métro parisien, où aujourd'hui, on a l'impression que ces écrans vidéo sont en train de remplacer peu à peu tous les supports publicitaires habituels auxquels on est habitué depuis maintenant des décennies dans les métros parisiens.
Ça attire
de plus en plus. Et ça attire
beaucoup plus l'œil qu'une image fixe, par définition.
Oui, bien sûr, ça attire de plus en plus et c'est ça aussi qui pose un problème sur le côté captation du regard, captation de notre attention et qui commence à poser des problèmes aussi sur ce qu'on peut imaginer vis-à-vis d'enfants, par exemple, qui sont de plus en plus surexposés. Alors, à des contenus qui ne sont pas forcément faits pour eux.
Justement, on va en parler. Je m'adresse maintenant aux chercheurs en sciences cognitives que vous êtes, Mehdi Kamassi. En quoi c'est pour vous un problème, tous ces écrans vidéo publicitaires ?
Donc bien sûr, l'argument écologique, pour nous, il est primordial, il est très important, donc il a été déjà mentionné, mais ensuite, il y a pas mal de questions qui se posent en termes... Alors, premièrement, on pourrait dire le problème de l'exposition aux écrans, en particulier pour les enfants. Donc, par exemple, on peut pas, en tant que parent, contrôler le contenu. Donc, s'il y a des choses violentes qui peuvent être montrées, si c'est à la télévision, de la publicité, vous pouvez zapper. Là, l'écran, vous pouvez pas. Et si vous êtes avec un très jeune enfant, il peut être fasciné par ça. Donc,
le cas arrive, pardonnez-moi, je vous interromps, le cas arrive, il y a des images violentes diffusées sur ce genre d'écran.
Bah parfois, si vous avez des films d'action ou des jeux vidéo avec de l'action, des fois, il y a sur ces écrans des choses avec du sang, avec des choses auxquelles on est habitué adulte, mais pour les très jeunes enfants, ça peut être choquant.
Et ce n'est pas réglementé comme, par exemple, les publicités au sein même du métro, ou c'est réglementé par la régie pub de la RATP ?
Il y a un certain nombre de réglementations. Je ne sais pas exactement où on en est de ce point de vue-là, mais en tout cas, on en voit pour l'instant.
Ouais. Vous dites également que ces panneaux sur les routes, c'est quand même contradictoire avec certaines campagnes de la sécurité routière.
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que, en fait, il y a un problème général de captation de l'attention.
Allez-y. Qui est
exacerbé par les écrans qui génèrent du mouvement. Et donc, le fait d'attirer davantage l'attention fait que on peut se déconcentrer de la tâche qu'on est en train de faire, et en particulier si on est en train de conduire, ce qui peut représenter un danger.
Ouais. Qui décide, question à tous les deux, je commence par vous, Mehdi Kamassi, qui décide de l'emplacement de ces écrans vidéo ? Est-ce que ce sont les maires des villes, les annonceurs, des firmes, comme JC Deco ?
Ça, je ne saurais pas vous répondre. Ça, j'imagine.
Jean-Paul Julliard, vous le savez, ouais. Comment ça se passe ?
Oui, c'est réglementé, bien sûr, et donc c'est une occupation de l'espace public, parce que ces panneaux sont dans l'espace public, ce sont des accords négociés entre les municipalités ou parfois les agglomérations, les communautés de communes, mais généralement les municipalités, donc les villes, donc c'est quelque chose qui se discute entre des mairies, des équipes municipales et les annonceurs que sont Deco et les autres, parce qu'il n'est pas le seul. Ouais.
Quelle est la législation autour de cet affichage à l'heure où on se parle en mars 2020 ? Je veux dire par là, est-ce qu'il y a des textes très précis, très bordés, ou alors est-ce que la réalité est allée plus vite que la loi et qu'il se trouve des vides juridiques comme ce fut le cas pour les trottinettes en libre-service, où les mairies ont été complètement submergées ?
Bah en fait, les mairies ont été submergées parce qu'elles se sont laissées submerger. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vide juridique dans le sens où les annonceurs n'ont pas la possibilité de s'installer sans autorisation municipale. Encore une fois, ce sont de l'occupation de l'espace public. Donc c'est la même réglementation finalement que les autres supports publicitaires. Mais où les mairies se sont laissées submerger, c'est qu'elles y ont vu une manne financière, hein, soyons clairs. C'est une ressource, parce qu'il y a une redevance qui est versée par l'utilisation de ces panneaux dans l'espace public, une redevance qui est versée à des municipalités, à des villes, et donc c'est une ressource financière importante pour certaines villes, et du coup elles ne se sont certainement pas rendues compte pour certaines, alors d'autres n'ont peut-être vu aucun problème, mais en tout cas j'ai l'impression que certaines équipes municipales ne se sont pas rendues compte de l'impact que ça pouvait avoir, de l'impact négatif que ça pouvait générer auprès du grand public. Ouais. Il y a une étude qui a été faite à Lyon par exemple, et à Lyon, ces panneaux, ces écrans vidéo publicitaires sont rejetés très largement par les habitants de la ville et de l'agglomération lyonnaise. Les gens trouvent que c'est trop. Voilà, que on a été habitué effectivement depuis des décennies, encore une fois, à avoir beaucoup de publicité dans l'espace public, dans les rues, dans nos gares, etc. Mais là, on a le sentiment que trop, c'est trop, que ça devient vraiment trop envahissant, qu'il y en a partout, qu'on n'arrive pas à regarder autre chose, ouais. que ça a un côté oppressant quelque part.
Et vous faites bien de soulever ce sujet parce qu'évidemment, à cause du confinement, il y a beaucoup, beaucoup d'élus qui nous écoutent en France en ce moment et qui voient peut-être les choses sous un autre angle. On continue avec notre infomédia du jour en compagnie de Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France, Mehdi Kamassi, chercheur en sciences cognitives au CNRS. Ils ont signé une tribune contre la prolifération des écrans vidéo publicitaires. Ici, il n'y a pas d'image, on marque une pub. A tout de suite.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie de Jean-François Julliard, il est directeur de Greenpeace France, avec Mehdi Kamassi également, en ligne, chercheur en sciences cognitives au CNRS. Nous parlons de la prolifération de ces écrans vidéo qui diffusent de la publicité. On les voit, ils sont verticaux, on en voit partout dans les gares, on les voit à l'intérieur des devantures, des pharmacies notamment. Le problème, si je vous suis, Mehdi Kamassi, c'est non seulement que ces écrans diffusent de la vidéo, images qui bougent, mais également qui diffusent de la publicité, ou c'est un moindre mal ? Ou est-ce que là est le cœur du problème, selon vous ?
En fait, il y a pas mal d'éléments qui s'accumulent. Donc, il y a bien sûr le contenu et de pousser à la consommation. Il y a ensuite la forme. Alors, on n'a pas parlé encore du fait qu'il y a des dispositifs de captation d'audience dans ces
écrans. Allez-y, justement, on est là pour en parler.
Et donc en fait, l'individu peut être sujet d'une étude, d'une mesure d'audience, sans en être conscient, et avec des capteurs qui ont la possibilité technologique de mesurer combien de temps on passe à regarder l'écran, est-ce qu'on a plutôt l'air d'être un homme ou une femme, par exemple si on a de la barbe, on peut détecter, on peut pas identifier l'individu a priori, on peut reconnaître un certain nombre de choses, est-ce qu'on est un enfant ou un adulte en fonction de notre taille.
Attendez, je vous interromps une seconde, pardonnez-moi, je vous interromps une seconde, il y a des caméras à l'intérieur de ces écrans qui nous filment à notre insu.
tout à fait. Il y a deux, en fait, si vous regardez en haut de ces écrans vidéo publicitaires, vous voyez deux fentes qui sont destinées à héberger des caméras. Donc, il y avait eu un scandale au départ avec des associations qui avaient demandé qu'on ouvre les écrans. Et puis, elles n'avaient pas été reconnues comme d'utilité publique. Donc, finalement, la demande avait été déboutée. La CNIL, je crois, c'était en 2010, avait dit, de toute façon, ce n'est pas des informations qui permettent d'identifier les individus en particulier. Donc, nous, ça ne concerne pas. Et puis, depuis, pas vraiment de nouvelles.
Mmh. Jean-François Juliard, vous alertez également sur le contenu de ces écrans publicitaires. Le problème, dites-vous, si j'ai bien compris, ce n'est pas seulement la pub, mais également quelle pub s'y trouve.
Oui, il y a différents problèmes, et effectivement, quel but y trouve. Et aujourd'hui, je pense qu'on a besoin, au-delà de ces écrans vidéo publicitaires, on a besoin de se poser la question du contenu des publicités qui sont affichées un peu partout. Et donc là, ça va au-delà de ces écrans vidéo. Ça pose la question de la pub utilisée dans les médias ou sur d'autres supports. Mmh. On voit bien aujourd'hui qu'on est dans une urgence écologique, qu'il faut réduire un certain nombre de secteurs qui sont les plus problématiques et donc les activités les plus polluantes. Et paradoxalement, on voit toujours autant, je ne sais pas si c'est de plus en plus, mais en tout cas toujours autant de publicités qu'on peut considérer comme vantant des activités climaticides. Et je pense par exemple aux publicités dans le transport aérien, pense aux publicités pour les SUV, ces fameux véhicules lourds qui sont achetés par une majorité aujourd'hui de Françaises et de Français. Donc je pense qu'aujourd'hui on devrait avoir un questionnement global et une réflexion globale sur quelle publicité, quelle réglementation pour des publicités qui mettent en avant des activités qui sont nocives et qui accentuent et qui accélèrent quelque part la crise climatique. Comme il y a eu une loi E20 à un moment donné pour réglementer la publicité sur le tabac, on estime, nous, Greenpeace, aujourd'hui, qu'il devrait y avoir une réglementation sur les publicités qui contribuent à l'accélération de la crise environnementale et de la crise climatique.
Ouais. Mehdi Kamassi, je pose la question à vous. À l'origine, vous vouliez mettre la pression, c'est un vous collectif, juste avant les municipales, dont le second tour, on le sait, a été suspendu à cause du coronavirus. Quels sont les députés qui vous soutiennent dans votre combat? Ils sont 67, on ne va pas tous les citer, mais ils sont surtout des écolos, il y a tous les bords politiques.
Il y a vraiment tous les bords politiques, c'est ça qui est intéressant. Je pense qu'il y a une prise de conscience générale, qu'en fait on va trop loin. En fait, c'est vraiment une question de quantité, de quelle société on veut, et est-ce qu'on veut être submergé.
Il y a même des députés La République En Marche?
Tout à fait, ouais.
D'accord. Et ça va de la gauche à la droite?
Exactement.
D'accord. Vous êtes chercheur en sciences cognitives, Mehdi Kamassi, je le rappelle. Est-ce que vous êtes également inquiet sur les risques sanitaires liés aux écrans, en particulier pour les enfants?
Alors, on a parlé un petit peu du contenu. Bien sûr que le fait de surexposer les enfants aux écrans, il y a des écrans partout, c'est pas quelque chose de très bon. Il y a beaucoup de difficultés à gérer l'accès aux écrans pour les enfants. En plus, les écrans jouent un rôle de distracteur, donc ça capte l'attention. Malgré nous. Mmh. Et on sait qu'il y a beaucoup de problèmes de troubles de focalisation de l'attention dans la société. Donc il y a déjà des pop-up, des textos et compagnie. Donc nos enfants ont du mal à se concentrer, et de rajouter des distracteurs supplémentaires, c'est pas bon pour leur développement, leur apprentissage.
Mmh. Jean-François Juliard, je me tourne vers vous pour terminer. Je rappelle que vous êtes directeur de Greenpeace France, et ma question porte justement là-dessus. Depuis le début de la pandémie du coronavirus, on constate des changements sur l'environnement, des eaux qui redeviennent limpides à Venise, on voit les poissons, des dauphins qui s'aventurent dans le port de Cagliari en Sardaigne, une forte baisse des émissions de CO2 en Chine et en Italie. Est-ce que vous pensez que cette crise aura des conséquences positives sur nos modèles économiques ?
Tout dépend comment on va gérer la sortie de la crise. Ce qui est positif là, c'est qu'on se rend compte à quel point nos activités humaines, globalement, nos activités économiques, nos modes de vie, les sociétés dans lesquelles on vit, ont un impact négatif sur notre environnement. Et ça va effectivement de la pollution de l'air à la pollution de l'eau, aux émissions de gaz à effet de serre qu'on ne voit pas, malheureusement, entre guillemets, mais qui sont en train de diminuer aussi parce que nos activités économiques ralentissent. Donc quelque part, c'est pour moi l'opportunité en quelque sorte de se reconnecter à ce vivant qu'on a tendance parfois à oublier qu'il est absolument nécessaire à la survie des populations.
On finira, on finira sur cette note d'espoir. Merci Jean-François Juliard, directeur de Greenpeace France. Merci Mehdi Kamassi, chercheur en sciences cognitives au CNRS. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Culture Média continue évidemment après le rappel des titres de 10h. On va parler des agriculteurs. Vont-ils sauver la planète? C'est la question que pose ce soir Pièce à Conviction. Il y aura le journal de la culture d'Hélène Manarino. Yael Naïm sera avec nous pour son nouvel album. Et puis dans les indispensables, Laurent Mariotte va cuisiner entrée, plat, dessert. Et Clémence Olivier nous fera découvrir une série britannique. À tout de suite.